OK, on va commencer notre 53e leçon dans notre série « Le péché, les 10 commandements, la grâce ». Ce matin, on va regarder le calvinisme et l'écuménisme, première partie. Pourquoi première partie? Parce qu'il va probablement y avoir trois parties. Alors, la première partie, c'est surtout l'histoire, d'où ça vient, ça. La deuxième, ça va être regarder leurs principales erreurs. Et la troisième, ça va être de regarder l'écuménisme bibliquement, regarder qu'est-ce que les Écritures enseignent sur l'unité de l'Église, etc. Alors, on va commencer par celui de l'histoire. Alors, on a entrepris, au cours des dernières leçons, de situer le calvinisme par rapport aux autres grands mouvements religieux de notre époque, donc le fondamentalisme chrétien, le néo-évangélisme, le pentecôtisme charismatique et l'écuménisme. Alors, ça se trouve être notre dernier grand mouvement religieux avec lequel on va comparer le calvinisme. Comparer et critiquer. Alors, nous étudierons brièvement aujourd'hui l'écuménisme. Nous verrons un peu son histoire, ses caractéristiques, ses croyances et ses erreurs. Nous devrons ensuite examiner comment les calvinistes doivent se situer par rapport à eux. Devrait-on collaborer, dénoncer leurs erreurs ou complètement se séparer d'eux? Quelle attitude devrions-nous adopter face à eux? Alors, examinons brièvement son histoire. Alors, bien sûr, j'aurais pu passer par-dessus l'histoire, mais parler d'un mouvement sans savoir d'où ça vient, comment ça s'est développé. Alors, bien sûr, ce qu'on va faire, ça a commencé, on pourrait dire en 1878, c'est pas marqué dans le texte, là, avec à Chicago, il y avait eu une exposition universelle pour les religions. Ça a commencé un petit peu là, mais pour dire le vrai début de l'histoire des communistes, en 1910. Donc, on pourrait dire qu'on examine, on va regarder en 7 pages, 100 ans d'histoire. Alors, faut dire qu'on va aller vraiment dans les hyper grandes lignes, mais c'est quand même important de savoir d'où ça sort. Alors, l'écuménisme, son histoire. L'écuménisme, parfois autographié écuménisme, est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l'unité visible des chrétiens. Je dirais que c'est un mot important ici, de regarder l'unité visible et l'unité réelle. On va voir dans la deuxième leçon que l'unité, il faut qu'elle soit basée sur quelque chose comme, par exemple, la nouvelle naissance. Alors, si c'est pas basé sur ça, l'unité visible, ça veut dire que aux yeux de tous, tu peux paraître uni, mais dans le fond, tu es uni sur une base qui est pas biblique. Alors, on va voir ça dans la deuxième leçon. Alors, quand on parle ici de l'unité visible des chrétiens, alors l'écuménisme moderne cherche à avoir l'unité visible. Alors, se développant à partir de la fin du 19e siècle, l'écuménisme se concrétise aujourd'hui par l'existence de divers accords, de nombreuses instances de dialogue, mais aussi par un certain nombre de réalisations concrètes, comme des entreprises de traduction commune des textes saints ou la semaine de prière commune pour l'unité des chrétiens. Alors, par exemple, on peut prendre la TOB. Une de leurs réalisations, c'est la TOB, donc la traduction écuménique de la Bible. Alors, et l'unité, la prière, la semaine pour l'unité de la prière, ça existe encore et c'est promu dans beaucoup de milieux. Alors, parmi les pionniers de l'écuménisme, on dénombre le patriarche orthodoxe Germain V de Constantinople, l'évêque anglican américain Charles Brent, le pasteur réformé hollandais Willem Visserhoft, le prêtre catholique français Yves Congar, ou encore l'archevêque luthérien suédois Nathan Soderblom et le laïc américain John Mott, qui ont tous deux reçu le prix Nobel de la paix pour cette activité. Alors, on va regarder un petit peu la naissance de l'écuménisme qu'on pourrait dire moderne. Alors, c'est généralement à la Conférence internationale des missions qui s'est tenue à Édimbourg en 1910, présidée par le laïc américain John Mott, que l'on fait remonter le départ de l'écuménisme moderne. Lors de la Conférence d'Édimbourg de 1910, les délégués des églises nouvelles d'Afrique et d'Asie soulevèrent la question urgente de l'unité des chrétiens. L'écuménisme contemporain est ainsi né du problème missionnaire. Comment prêcher l'Évangile à partir d'églises séparées, divisées à propos de la doctrine même de l'Évangile, pour peu qu'elle en propose une? Mais il apparut tout de suite que le problème de la séparation des chrétiens avait deux aspects: rivalité dans la pratique et divergence dans l'interprétation. C'est après la Première Guerre mondiale que l'écuménisme prend le sens d'une recherche de convergence entre les chrétiens de différentes confessions et que les initiatives se multiplient. Si un Conseil international des missions réunit son premier congrès à Lake Mohonk en 1921, deux mouvements écuméniques protestants accueillant des orthodoxes se développent particulièrement à la suite d'Édimbourg. Celui du christianisme pratique, donc en anglais, ils appellent ça « life and work », d'inspiration luthérienne, qui tient sa première conférence mondiale en 1925 à Stockholm, et celui de « foi et constitution », donc en anglais, c'est vraiment « faith and order », c'est les noms les plus connus, l'autre, c'est des traductions françaises, lors d'inspiration anglicane, qui se réunit pour la première fois à Lausanne en 1927. Le premier, animé par l'archevêque luthérien d'Uppsala, Nathan Soberblom, entend manifester l'unité des chrétiens à travers l'action concrète de la lutte et la lutte pour une société plus juste, tandis que le second, qui réunit 108 églises sous l'impulsion de l'évêque anglican américain Charles Brand, se penche sur les problèmes doctrinaux et structurels ecclésiaux. Donc on voit deux choses, ils cherchent à s'en aller vers l'amélioration de la société, d'une part, et d'autre part, essayer d'enlever les problèmes, s'ils peuvent s'être enlevés, les problèmes doctrinaux entre les différentes confessions. Alors, les deux mouvements décident de fusionner à la fin des années 30 et un comité préparatoire se réunit à Utrecht du 9 au 22 août 1938 qui met en place le Conseil œcuménique des Églises, donc en anglais, le World Council of Churches. Ça, c'est très important de comprendre comment ça s'est structuré. Et Conseil œcuménique des Églises, World Council of Churches, c'est l'ensemble d'à peu près toutes les religions chrétiennes qu'il y a sur la terre. Et même aujourd'hui, ça s'est élargi pour inclure des religions autres que chrétiennes. Alors, c'est vraiment une grosse organisation. Alors, la création du Conseil œcuménique des Églises. Alors, elle avait été prévue initialement pour 1941. Donc, cette création du Conseil œcuménique des Églises fut retardée par la guerre de 39-45 et par l'opposition de l'Église catholique, qui refuse d'envoyer des observateurs et interdit par un monitum aux catholiques de participer à l'Assemblée. Moi, personnellement, mon opinion, c'est que on veut faire croire que l'initiative de mettre les Églises ensemble vient des protestants, comme on vient de le voir, 1910, luthériens, tout ça, orthodoxes, vient de autre que l'Église catholique. Mais personnellement, je crois que c'est eux qui ont, c'est des catholicistes qui ont vraiment, pas avoir infiltré des milieux pour... On voulait que l'initiative vienne des protestants pour s'unir entre eux d'abord, ensuite faire la deuxième étape de l'unir le catholicisme avec ces gens-là. Alors, ils ont toujours voulu... dire qu'ils s'étaient opposés, parce que regarde, on le voit dans le texte, là, ils ont même un monitum, c'est comme une interdiction absolue aux catholiques de participer au Conseil œcuménique des Églises. Mais on va voir qu'ils sont rendus aujourd'hui, qu'on va voir que ça a changé. Alors, l'Assemblée constitutive du Conseil œcuménique des Églises se tient en 1948 à Amsterdam et voit la fusion des organismes de vie et activité, et foi et constitution, ce dernier conservant une vie propre au sein du Conseil œcuménique des Églises. Dans sa première déclaration commune, rédigée à Utrecht et acceptée à Amsterdam, le Conseil œcuménique des Églises se présente tout d'abord comme une communauté, en anglais un fellowship d'Église qui accepte notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur. Alors, disons que c'est assez large et comme définition. Alors, le conseil a le pouvoir d'émettre des avis et de convoquer des conférences. Et son premier secrétaire général, le pasteur hollandais Willem Visserhoft, précise qu'il s'agit d'un conseil d'église et non le conseil de l'unique église indivise. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qu'ils veulent dire ici. C'est un conseil d'église au pluriel et non pas la volonté de vouloir former une seule église. Laissez-moi mettre un bémol là-dessus. Alors, l'Assemblée plénière de 1961 à New Delhi couronne les efforts écuméniques en recueillant notamment l'adhésion des églises orthodoxes de l'Est et l'intégration du Conseil international des missions. Le Conseil écuménique des églises se réfère explicitement à la Bible dans son document de base. Celui-ci affirme que le Conseil écuménique des églises est une association fraternelle d'églises qui confesse Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et se force de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du Dieu seul, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, personne n'est contre la vertu. Quand on lit ça, ça a l'air bien à première vue. Alors, cette déclaration commune, la base, qui n'est pas une confession de foi, est marquée par le trinitarisme, absent jusque-là, et élargit le nombre de membres du mouvement, mais provoque le départ des unitariens et la fondation des unitariens universalistes. Alors, quand ils se sont déclarés trinitariens, bien entendu, il y avait des unitariens à l'intérieur de ça. Eux sont sortis et ont formé l'association des unitariens universalistes. Au passage, elle relance la querelle christologique mise sous le boisseau en 1948. Après la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre froide, le Conseil écuménique des Églises connaît une arrivée massive d'églises chrétiennes autonomes du tiers-monde et des nouvelles questions qu'elle porte qui marquent progressivement la déseuropéanisation du mouvement. Alors, on sait, le mouvement parti en Europe, on a vu tout à l'heure Amsterdam, et avec l'arrivée des églises d'Afrique et tout ça, ben je veux dire, l'influence de l'Europe a diminué et l'influence des Africains et des autres nations qui se disaient chrétiennes a augmenté. Alors ça, c'est important aussi dans l'équilibre de tout ça. Alors, au cours du 19e siècle, l'orthodoxie connaît donc des épisodes de rapprochement avec diverses confessions séparées ou indépendantes de l'Église romaine. Un certain prosélytisme de cette dernière, qui se traduit notamment par des missions sur les terres traditionnellement orthodoxes et par le développement des Églises catholiques orientales, n'est pas sans créer des tensions entre ces deux confessions. Bien sûr, quand tu prends les orthodoxes, les protestants, les catholiques, tu mets tout ça ensemble, bien sûr, ça risque de créer un peu des tensions quelque part. Il y en a eu, mais ils sont très habiles pour niveler par le bas, appellerait ça. Alors, au début du 20e siècle, une encyclique du patriarche Joachim III, datée de 1902, est rédigée à la suite des félicitations reçues du monde orthodoxe pour son intronisation comme patriarche œcuménique de Constantinople, aborde en réponse le sujet de l'unité des chrétiens et son désir d'ardent union avec tous ceux qui partagent la foi dans le Christ. S'il souligne la difficulté que constituent les positions doctrinales des différentes églises occidentales sur la voie de l'espoir de l'unité retrouvée, ce désir d'unité marque fortement l'attitude des confessions orthodoxes dans le processus écuménique. Pour surmonter la difficulté, il faut alors s'attacher à discerner de ce qui relève de la différence, ce qu'ils ont appelé diaphora, d'ordre pratique, des divisions qui sont une perversion. Alors, ils ont commencé à vouloir faire des distinctions là, entre ce qui est d'ordre pratique, ce qui est d'ordre théologique, et de mettre les choses, en faire deux choses différentes. Alors, en 1920, une autre encyclique fait figure du jalon fondamental pour le mouvement écuménique en général. Émanant du patriarche Germain V de Constantinople, elle évoque la notion d'une communion d'Église, à créer une union bénie des Églises pour laquelle il invite les différentes traditions à concourir en s'engageant dans l'étude conjointe des questions essentielles autour de la notion de réunion. Et vous, on va étudier les questions, mais qu'est-ce qui fait, c'est vraiment la notion de réunion qui fait le centre. Ils veulent se réunir et ils ne disent pas autour de la notion de vérité, autour de la notion de réunion. Alors, on va regarder toutes les difficultés, puis on va regarder ça à la lumière qu'il faut garder l'unité. Alors, on sait que ça va amener... Alors, pour la patriarche, la promotion des contacts entre les églises est le premier pas essentiel qui doit être suivi de l'abolition de toute la méfiance et mutuelle de l'amertume, afin que l'amour soit relancé et renforcé entre les églises. Il énumère ensuite 11 points fondamentaux comme proposition de travail pour une future collaboration entre les églises, une liste qui devient la base du travail programmatique du Conseil œcuménique des églises au moment de sa création, et ce qui fera dire à Visser Hoft que l'encyclique de 1920 a sonné la cloche de notre rassemblement. Alors, on va voir maintenant comment l'Église catholique est embarquée là-dedans officiellement. L'œcuménisme catholico-protestant a pris son essor dans la seconde moitié du 20e siècle, particulièrement après le Concile Vatican II, qui a eu lieu entre 62 et 65. Moi, je me souviens que quand il avait introduit des nouvelles affaires, comme par exemple, on ne prenait plus la communion direct sur la langue, on recevait la communion, il fallait mettre les mains, on les donnait dans les mains. Et pour certains vieux catholiques de l'époque, là, c'était des choses extraordinairement révolutionnaires. Alors, le Concile Vatican II, ça a été un pas vers le développement des relations entre les catholiques et ce grand mouvement-là. Alors, ça s'est institutionnalisé par le décret sur l'œcuménisme, leur document qui s'appelait « Unitatis Redintegratio » de 1964, qui reconnaît le côté chrétien du protestantisme et favorise la poursuite du dialogue. Pour en arriver là, il a fallu surmonter bien des réticences des autorités romaines, et l'œcuménisme né au sein des Églises de la Réforme va coexister avec les formes catholiques romaines officielles du désir d'unité traduite dans l'unionisme catholique et de l'uniatisme. Alors cependant, dès la fin du 19e siècle, il n'est bien que pourchassé dans l'Église romaine. Le modernisme appuie le renouvellement de l'exégèse biblique au sein de celle-ci, à l'instar de ce qui a cours dans le monde protestant depuis quelques décennies, approfondissant sa dimension philosophique et théologique pour en conclure à la réalité d'une unité des croyants au-delà des cloisonnements ecclésiastiques. Ce phénomène opère un profond renouveau biblique au sein du catholicisme et l'intensification des collaborations entre les exégètes catholiques et protestants. Ça a engendré un véritable œcuménisme biblique. Par ailleurs, des expériences comme les conversations de Malines, qui ont eu lieu entre 1921 et 1925, à l'initiative du cardinal Mercier, sur la suggestion du lazariste Fernand Portal et de l'anglican Lord Halifax, voit le jour, mais demeure sans suite, du moins dans l'immédiat. De son côté, Rome, estimant que l'unité réside à Rome, ça c'est une phrase extrêmement importante. Pour eux, il peut y avoir une unité, mais il faut que le centre soit à Rome. Voyez-vous, on ramène ça sous la jupe de Rome. Alors, estimant que l'unité réside à Rome, décline toute invitation faite aux conférences organisées tant par foi et constitution que par christianisme pratique. Il rejette toute participation à la préparation des premières conférences œcuméniques. Plus loin, en 1928, après la conférence de Lausanne organisée par foi et constitution, Pie XI interdit, même par encyclique, « Mortalium animos », toute participation des catholiques au mouvement œcuménique. Alors, cependant, du côté des individualités, des théologiens comme Otto Carrère en Suisse, Henri de Lubac et Yves Congar en France, Lambert Baudouin et Gustave Tills en Belgique, ou encore Karl Adam et Romano Gardini en Allemagne, repense les positions traditionnelles catholiques vis-à-vis des églises protestantes. Congar, qui sera un des grands artisans de Vatican II, fait particulièrement œuvre de pionnier au sein de sa confession, en étudiant tant la nature de l'écuménisme que les conditions pour arriver au principe d'un écuménisme catholique, qu'il analyse dans un ouvrage éponyme publié en 1937. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Église catholique refuse d'envoyer des observateurs aux différentes conférences écuméniques, le cardinal Stritch interdisant encore en 1954 la participation des catholiques à Evanston. La promulgation du dogme catholique de l'Assomption en 1950, particulièrement sa formulation exclusive fondée sur une infaillibilité pontificale, qui était bien sûr contestée, provoque en outre de fortes réactions négatives au sein des églises non romaines. Alors, c'est sûr qu'en 1950, disant que l'Assomption, c'est la montée de Marie direct au ciel, là, et disant que c'est basé sur l'infaillibilité, bien sûr, les autres religions, là, comme les protestants et les orthodoxes, ont comme rué les brancards un peu. Mais avec le pape Jean XXIII, accédant au pontificat en 1958, les choses évoluent. Il oriente nettement le catholicisme contemporain vers l'écuménisme et le Vatican envoie désormais des observateurs officiels aux conférences du Conseil œcuménique des Églises, par exemple en 1961, ou de Foi et Constitution en 1963. En 1960, est créé un secrétariat pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, qui a initialement pour tâche d'assurer l'orientation œcuménique des textes de Vatican II avant d'être rendu permanent par le pape Paul VI. Alors on voit qu'à partir de Jean-Paul... Jean XXIII, la mentalité catholique face à l'écuménisme a changé. Ils se sont vraiment dirigés vers le développement et l'acceptation de ça. Alors, au point de vue contemporain, où est-ce que c'est rendu maintenant aujourd'hui? Alors, le Conseil œcuménique des Églises est la plus grande et la plus inclusive des différentes expressions du mouvement œcuménique. Ce mouvement entend répondre à la prière que l'Évangile, selon Jean, de Jean 17-21, qui attribue à Jésus-Christ que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que qu'eux soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Alors, bien sûr, il utilise des versets, mais on va voir plus tard dans les deux autres leçons. L'autre leçon, ça va être de regarder sur quelle base ils se sont réunis, et l'autre leçon, ensuite, ça va regarder qu'est-ce que les Écritures enseignent sur la véritable unité des chrétiens. Alors, aujourd'hui, on fait juste aller dans les grands principes. Ils servent de versets comme Jean 17, où Christ a dit qu'il voulait l'unité. Mais est-ce qu'il voulait l'unité à tout prix? Ça, c'est une autre affaire. Alors, les églises réunies au sein du Conseil œcuménique des églises sont appelées à avoir pour but l'unité visible. Encore, on répète l'importance du mot « pour eux ». Pour eux, ils vont toujours dire l'unité visible de l'Église. Alors, c'est un objectif central du mouvement œcuménique, ce qui implique des relations et des dialogues entre les diverses églises. Le mouvement œcuménique préconise le travail en commun des églises qui le souhaitent, dans le respect mutuel des diverses institutions. La déclaration d'intention du Conseil œcuménique des églises précise qu'il n'est pas une super église. Ça, ils se défendent de ça à bec et ongles. On ne veut pas construire une grande super église. Ils disent qu'ils sont plutôt une association. Alors, c'est important de voir le langage qu'ils utilisent et le comportement qu'ils ont dans la réalité. Alors, pour regarder un petit peu, là, on va regarder un petit peu l'importance des structures de tout ça. C'est vraiment partout, c'est vraiment international, c'est vraiment presque toutes les églises sont embarquées là-dedans. Du bien presque. Lors de sa création en 1948, le Conseil œcuménique des Églises rassemble 147 églises. Quand on parle ici d'église, là, on parle de dénomination. On ne parle pas d'église, une église locale. On parle des grandes églises. Issues de 44 pays. En 2013, il réunit, voyez-vous, regardez là, 48, 147, 2013, 345. Alors, 345 églises, dénominations et communautés d'églises de 120 pays. Voyez-vous, il était dans, on parle de 44 pays, pas bien ben longtemps après, là. 2013, 48, 50 ans à peu près, une cinquantaine d'années après, ils sont rendus à 120 pays, représentant plus de 500 millions de chrétiens répartis à travers le monde, prenant en compte le fait que n'ont pas les mêmes méthodes pour recenser leurs fidèles. Alors, le siège social du Conseil œcuménique des Églises est basé à Genève. Excusez. La majorité des églises affiliées sont issues d'Afrique, d'Asie, des Caraïbes et de la région Pacifique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Ils sont représentés la presque totalité des églises orthodoxes, les différentes confessions issues de la Réforme. Ça, c'est surprenant. Comment les gens de la Réforme ont embarqué là-dedans? En tout cas, c'est un autre mystère. Les églises adventistes et pentecôtistes, de même que de nombreuses églises unies et indépendantes. L'Église romaine n'en est pas membre, mais a un siège observateur et contribue étroitement avec le Conseil œcuménique des Églises au sein d'un groupe mixte qui se réunit annuellement. Des membres catholiques de plein droit siègent par ailleurs au sein des commissions Foi et Constitution et Mission et Évangélisation. La vie du Conseil œcuménique des Églises est rythmée par des assemblées générales qui se réunissent tous les 7 ans, qui définissent les grandes orientations du mouvement. L'Assemblée plénière élit un comité central de 150 membres qui se réunit annuellement pour superviser les travaux, tandis qu'un secrétariat général siège à Genève. Le travail du Conseil œcuménique des Églises se déploie essentiellement en 4 domaines principaux. Première, recherche théologique avec la commission Foi et Constitution et pratique de l'unité. La deuxième, c'est la mission et évangélisation. La troisième, entraide et partage. La quatrième, lutte pour la justice et la paix. J'ai émis ma conviction profonde qui est établie depuis des années. Je crois que le but ultime de ça, c'est la création de la religion mondiale et du gouvernement mondial. Et les Écritures nous en parlent. Il ne faut pas être surpris de ça, là, parce que Apocalypse 17 et Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, on va les lire, les versets. C'est important parce que on va voir que les Écritures avaient déjà vu que le but ultime de cela était cela. Alors, Apocalypse 17, on va lire tout le chapitre. « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. » Les eaux, dans les Écritures, souvent, « eau » au pluriel, est utilisée comme un symbole des nations. La grande prostituée, donc, les Écritures, quand on parle de prostitution, on parle de prostitution spirituelle. Si elle est assise dessus, c'est que c'est le symbole de sa domination sur les nations. Alors, il dit, « Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Souvent, dans les Écritures, quand on parle de bête, on parle de force politique, on parle de puissance politique. Ayant 7 têtes et 10 cornes, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, « Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. » Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était... Elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme, doit aller à la perdition. et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » Beaucoup croient qu'on fait référence à la Rome du début là, qui a conquis le monde. Alors, on sait qu'éventuellement, elle a disparu, mais la deuxième Rome, c'est la Rome, la religion romaine. Alors, il cite ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. La ville de Rome est construite sur la... On l'appelle la ville des sept collines. Beaucoup d'interprètes croient qu'ici, on parle de la ville de Rome. Ce sont ici sept rois, cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester pour un peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi, pendant une heure, avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le vainqueur des seigneurs et le roi des rois. Et il les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. » Ce qui est important, c'est de voir, la bête, c'est toujours une puissance politique, la prostituée, c'est toujours la puissance religieuse. Alors, les dix cornes que tu as vues, la bête, haïront la prostituée. Autrement dit, tu es en train de dire que le système politique unificateur, la grande puissance mondiale politique, va finir par haïr la puissance religieuse et ils vont vouloir la détruire. Les dix cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée et la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Alors, on pense que c'est Rome qui, aujourd'hui, domine sur les rois de la terre. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 12. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin que qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors bien sûr, on ne rentre pas dans les détails de tout cela, là, mais dans le fond, c'est juste pour démontrer que les Écritures ont annoncé ces choses-là. Alors, dans la prochaine leçon, on va vraiment regarder c'est quoi leur grand problème. Ici, il y a une page, une affaire que je n'ai jamais compris. J'ai trouvé ça sur Internet. C'est comme l'histoire de l'écuménisme sur un document PDF. Tu peux lire le document PDF et ici, on envoie une partie, mais on ne peut pas l'imprimer parce que ça comprend plus. On dirait que c'est juste une page, mais une page quand on le download, là. Mais quand on vient pour la lire ou pour l'imprimer, on dirait qu'elle s'allonge. Je n'ai jamais compris. J'ai cherché comment trouver une solution pour vous l'imprimer, mais je n'ai pas pu. Alors, la seule chose que je peux vous dire, c'est que dans le document, vous avez un endroit où, si vous, vous téléchargez le document sur Internet, vous allez pouvoir lire dans sa totalité le PDF. J'ai jamais compris pourquoi tu peux faire un PDF de plus qu'une page. Il est long, 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 mais quand tu le downloads, ça fait comme une page, puis tu ne peux pas l'imprimer. En tout cas, c'est un mystère. Mais si vous voulez avoir l'histoire dans les grandes lignes de tout ce que, de tous les développements de ce mouvement-là sur 100 ans, ici, vous en avez peut-être à partir de... Vous ne les avez pas tous. C'est pour vous dire que... En tout cas, c'est ça. Maintenant, ce que je voulais vous parler aussi, c'est les rencontres d'Assises. Vous en avez déjà parlé. La première a eu lieu en 1986 à Assise, qui est une ville d'Italie, où, semble-t-il, qui serait la ville où François d'Assise, le saint catholique, alors on sait qu'il est reconnu comme étant quelqu'un qui était fort sur l'environnement et l'amour. Alors ils ont voulu choisir ce saint-là et la ville dans laquelle il était venu au monde pour faire toutes les grandes réunions qu'on va, on va vous montrer quelques images, là. Mais Internet, il y en a plein d'images là-dessus, là. Mais les rencontres d'Assises sont une expression de où l'unité est rendue. Alors, on va regarder ça, là. Alors, les rencontres d'Assises sont une série de rencontres interreligieuses ayant eu lieu dans la ville d'Assise, en Italie, à l'invitation du pape. La première rencontre a été la Journée mondiale de la prière, ayant eu lieu le 27 octobre 1986, organisée par Jean-Paul II, pour inviter toutes les grandes religions du monde à prier pour la paix. Cette rencontre, manifestant une forme alors inédite du dialogue interreligieux, sera suivie d'une nouvelle journée de prière en 1993, une troisième se déroule en 2002 et une autre le 27 octobre 2011. Alors on voit que, moi je me souvenais de celle de 86, mais à un moment donné j'ai décroché de suivre tout ça, mais on voit que à période régulière ils reviennent, et plus on avance vers notre époque à nous, plus on voit que le mouvement est en train de s'internationaliser dans le sens de pas juste l'unité des chrétiens, mais l'unité des religions. Alors, c'est ça qu'on va voir. Alors, la première rencontre d'Assise crée la surprise par son caractère inédit. Elle est annoncée par le pape Jean-Paul II le 25 janvier 1986, à l'occasion de l'année internationale de la paix proclamée par l'ONU, dans le contexte de la guerre froide, de la guerre du Liban. La rencontre a eu lieu le 27 octobre suivant et réunit 130 responsables religieux du monde entier. La deuxième rencontre, en 1993, se déroule sur fond de conflits dans les pays de l'ex-Yougoslavie. La troisième rencontre, annoncée le 29 janvier 2002, se place dans une période de tensions internationales consécutives aux attentats du 11 septembre 2001 et voit la présence de 29 dirigeants religieux du pays musulman. Alors, j'ai mis quelques photos pour... moi, je trouve qu'ils sont très évocatrices de ce qui est en train de se passer. Ici, on voit une photo du pape Jean-Paul II avec un dirigeant musulman en train d'embrasser le Coran. Je trouve ça très significatif, là. Alors, moi, ce que j'ai voulu vous montrer dans à la page 13, vous avez... Moi, je vois deux étapes là-dedans. Puis je pense que n'importe quel observateur peut voir assez clairement ces deux étapes-là. Alors, la première étape de l'écuménisme, je pense que c'était l'unité, la volonté d'unir les chrétiens dans l'ensemble des dénominations. Alors, ici, je trouve que vous avez une image qui parle fort. Au centre, vous remarquerez que Rome est toujours au centre. Alors, ici, on voit le pape habillé en blanc, comme d'habitude. Et à gauche, à sa droite, vous avez la religion orthodoxe, donc le patriarche de Constantinople. Et à sa gauche, vous avez ou à sa droite, dépendamment de si vous regardez l'image ou si vous placez à la place du pape, à sa droite, si on regarde l'image, là, on a un représentant du protestantisme, donc un anglican. Donc, on voit vraiment le pape Jean-Paul II à Assise en 86 avec les leaders des autres que ce qu'ils appelaient les chrétiens séparés. Le même le terme est très choisi. Hein. C'est, ils veulent montrer que oui, on peut jusqu'à un certain point reconnaître que vous êtes chrétien, mais vous vous êtes séparés, c'est comme en voulant dire, de la mer. Vous êtes séparés de... Alors, moi, je trouve que c'était une image qui est très forte pour démontrer ce que c'était rendu dans la première étape. Maintenant, on sait qu'il y a eu un développement, qui sont rendus plus maintenant avec le développement de l'unité des grandes religions mondiales. Alors, la deuxième, on le voit, ici, on voit Benoît XVI. Vous regarderez à sa gauche qui est là et l'ordre dans lequel les gens sont assis. C'est important, hein? Vous savez qu'on n'assit pas n'importe qui, n'importe où. Là. Alors, vous avez l'orthodoxe, le premier à sa gauche, si on regarde l'image, c'est les orthodoxes, donc les orthodoxes numériquement, comme chrétiens de dénomination, sont plus importants. Après ça, tu avais les protestants. Et si on regarde de l'autre côté, regardez à droite de Benoît XVI, on voit les religions, le bouddhisme, et le dernier, c'est un musulman. Alors, on voit vraiment la volonté, peu importe de quelle dénomination, de quelle religion, quelle grande religion tu es, et le pape est toujours au centre. Je trouve ça très imagé pour démontrer la volonté que tous ces gens-là finissent par s'unir autour de Rome. Alors, on va terminer par les applications. Prions ardemment pour du discernement et beaucoup de sagesse pour bien comprendre le mouvement œcuménique et ses très graves dangers. Deuxièmement, attachons-nous plus que jamais aux saintes écritures et à la sainte doctrine pour éviter d'être séduits. N'oublions pas Acte 4, versets 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. S'il y a un verset qui n'est pas populaire auprès des écuméniques, c'est bien celui-là. Alors, par sa grâce et pour sa gloire, Amen.